Je vais commencer par un petit préambule de pourquoi on est là, de sociologues perdus, même si je commence à prendre l'habitude. Puisque... Ah bah parfois on est un peu perdu quand même sur les usages. Mais enfin c'est vrai qu'ici au moins c'est pas trop technique, hein, mais parfois il m'est arrivé d'aller dans des... Maintenant que mon laboratoire a fusionné avec un laboratoire de linguistique, d'être perdu au milieu des lexicologues. Et je me sentais parfois un peu... Je me sentais parfois un peu perdu et ne comprenant pas toujours ce qui est... ce qui étaient les enjeux définis par les collègues. En tout cas, je suis ravie de participer. Et donc, la commande qui m'avait été faite par Aurélie était plutôt, parce que je me sens un peu en décalage par rapport à ce qui a été fait, présenté auparavant, plutôt une commande, on va dire, conceptuelle. C'est-à-dire, elle me disait, voilà, je découvre un champ, je suis sociolinguiste et j'aimerais bien découvrir certains outils théoriques qui pourraient éclairer ma pratique. Et donc, je lui ai fait une proposition autour d'une approche que moi j'utilise, qu'on appelle aujourd'hui l'articulation des rapports sociaux, ce qui est un jargon sociologique que vous ne connaissez probablement pas tous, puisque ce n'est déjà pas très connu des sociologues eux-mêmes, donc je ne m'attends pas à ce que vous soyez déjà initiés sur les questions. En fait, c'est une approche qui part du constat que pendant longtemps, la sociologie et les sciences humaines et sociales françaises en particulier ont été complètement dominées par une approche en termes de classe sociale. C'est-à-dire que quand on regarde la stratification sociale en sociologie classique française, on voit des classes sociales, il y a des classes sociales. Et après, il y a eu des champs qui se sont construits plus tardivement, donc le champ de la sociologie des migrations et des relations interethniques, et le champ du genre aussi, ou des classes d'âge. Et elles étaient souvent un peu occultées, ces champs étaient occultés par la prééminence du concept de classe sociale. Et aujourd'hui, les auteurs proposent non pas de penser, certains auteurs proposent de penser non pas les choses en termes, il y a un concept qui prime sur tout, qui surplombe. Donc quand on lit une situation, on voit que des classes sociales, il y a des différences de milieux sociaux, où il y a des différences d'appartenance ethnique, de genre, etc. Mais d'essayer au contraire de combiner une approche qui s'intéresse à tout, mais pas n'importe comment, en fonction de chaque contexte, de ce qui est saillant dans la relation. Voilà. Donc, on observe un terrain et on regarde qu'est-ce qui est saillant, est-ce que c'est le genre, est-ce que c'est les relations interethniques, comment les deux se combinent, qu'est-ce que ça produit, et ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc, et un des champs, c'est pourquoi j'ai proposé ça à Aurélie quand elle m'a proposé de venir, c'est qu'un des champs où cette réflexion a le plus émergé en France, c'est ce qui concerne le vécu, l'expérience des femmes migrantes, en fait. Donc c'est là où on trouve la littérature la plus importante en sociologie, c'est en ce qui concerne, qui utilise l'articulation des rapports sociaux comme approche, c'est le champ d'études du vécu des femmes migrantes, donc dans lequel je me suis inscrite. Ça, c'est un objet de recherche qui est antérieur, donc qui ne tient pas compte des dynamiques langagières que je découvre grâce à mes collègues d'Isola et que j'expérimente dans d'autres projets, mais je serais ravie que vous m'aidiez à éclairer d'autres dimensions pour poursuivre ça. Donc, j'ai oublié de le présenter dans mon papier, je m'en suis rendu compte, c'est bête. J'ai oublié la méthodologie, donc il s'agit d'une enquête de type ethnographique, de longue durée. J'ai fait presque du terrain du début à la fin de ma thèse et je ne conseille pas à ceux qui sont actuellement en thèse de le faire, mais c'est un bon exercice d'immersion quand on est sur des interactions de terrain avec des gens qui se pensent et qui sont souvent construits comme en position dominée par rapport à la vôtre. Voilà. Donc c'est un bon moyen d'essayer de limiter les rapports de pouvoir entre les chercheurs et les personnes qu'on étudie. Donc, les femmes que j'ai étudiées dans le cadre de cette thèse, ce sont des femmes qui sont médiatrices interculturelles. Donc, je n'ai pas oublié les questions qui ont été posées tout à l'heure par rapport à ça. Ces médiatrices interculturelles, ce sont des femmes globalement, contrairement à ce qu'on pense, plutôt plus instruites que la plupart des femmes de leur classe d'âge dans leur pays d'origine. Donc, elles arrivent en France souvent pour rejoindre un conjoint, mais avec un projet d'insertion professionnelle, voire un projet d'études supérieures en France. Et en arrivant en France, elles se trouvent en difficulté d'insertion dans des formations et d'insertion professionnelle. Elles font un repli dans leur famille, dans leurs projets familiaux, faire des enfants, etc. Et au bout d'un moment, elles en ont un peu marre et elles trouvent à se professionnaliser dans le champ de la politique de la ville, les rares opportunités qu'on a dans ce contexte-là pour s'insérer professionnellement. Donc, voilà un peu les femmes que j'ai étudiées. Ce que je... Je ne sais pas si je vous présente, c'est une question. Est-ce que vous voulez que je vous présente quand même le champ de l'articulation des rapports sociaux ou que je passe directement à mon terrain parce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile d'avoir une réponse unanime, générale.
Il y a des demandes, oui.
Il y a des demandes. Alors, ok, je le fais.
Mais rapide.
Rapide. Je vais essayer de faire très rapide et de vous renvoyer à mon papier. Donc, c'est parti d'un constat qui va vous intéresser parce que, enfin, je pense, puisqu'on en a déjà un peu parlé sur le côté migration-travail, insertion, on va dire, et travail. La sociologie des migrations, elle s'est souvent centrée, historiquement, elle s'est beaucoup centrée sur la figure du travailleur migrant et derrière le travailleur, enfin, le migrant est pensé comme un travailleur immigré. D'ailleurs, dans le langage courant, on a longtemps parlé de travailleur immigré. Et ce travailleur immigré était plutôt un homme, en tout cas dans les représentations. Donc tout le premier travail des sociologues des migrations, aussi des historiennes et des historiens des migrations qui ont beaucoup apporté sur le sujet, c'est de voir quelle est la contribution des femmes dans les flux migratoires. Donc observez que de longue date, il y a toujours eu des femmes qui migraient, des femmes qui rejoignaient et des femmes qui migraient seules, même si statistiquement, évidemment, elles apparaissent un peu plus massivement après la fermeture des frontières pour des processus que je pense vous connaissez. Donc, les sociologues des migrations ont commencé par se dire « Attention, les migrations, c'est quelque chose d'hétérogène. Il y a des femmes, et migrer quand on est une femme ou migrer quand on est un homme, est-ce que ce sont les mêmes processus? Est-ce que ce sont les mêmes expériences ?» Sauf que même quand on s'intéressait aux femmes, pendant longtemps, les sociologues avaient tendance à regarder la femme comme prise entre tradition et modernité. Hein, des thèmes qu'on a commencé à aborder aussi entre nous, c'est-à-dire comme si arriver en France, c'était le début de la modernité, et avant de partir, c'était la tradition, chose qui est évidemment largement invalidée par le terrain, puisque moi, dans mes observations, beaucoup de femmes me disaient « Oh ben là, quand j'étais à Casablanca, dans les années 70, je mettais une mini-jupe, et voilà que ma fille, maintenant, elle porte le voile, alors que moi, j'ai jamais porté le voile de ma vie. » Donc là, on n'est pas du tout sur un truc tradition de pays d'origine, modernité avec l'arrivée en France. Donc, les sociologues étaient enfermés un peu dans cette thématique évolutionniste entre tradition et modernité, avec une vision assez familialiste, c'est-à-dire que quand on regardait les femmes, on avait tendance à les regarder comme des mères, dans leur rôle de mère, en tant qu'éducatrices d'enfants, et non pas avec un parcours personnel et déjà une trajectoire d'émancipation, enfin, une réflexion sur leur émancipation avant d'arriver en France. C'est-à-dire que le point de départ de l'émancipation et des réflexions sur l'autonomie et les marges de liberté qu'on a ne commence pas en arrivant en France, bien souvent, comme je l'ai observé dans les parcours biographiques des femmes que j'ai rencontrées. Donc voilà où on en était, jusqu'à ce que les deux champs se rencontrent, c'est-à-dire le champ des relations interethniques et des migrations, et le champ de la sociologie du genre, qui se sont croisés pour éclairer à la fois la dualisation du marché du travail des femmes, c'est-à-dire que ça a permis aussi de déconstruire qu'est-ce que c'est que le groupe des femmes, et le fait que pour s'autonomiser, certaines femmes des classes moyennes et de la majorité, des majorités ethniques avaient besoin de salariés, des femmes de milieux sociaux plus défavorisés et d'appartenance ethnique des minorités pour elles-mêmes pouvoir travailler, voilà, d'où l'importance des assistantes maternelles, comme l'a éclairé Aurélie tout à l'heure, qui sont souvent des femmes des minorités ethniques. Donc ça crée aussi une assignation des femmes des minorités ethniques à certaines tâches de reproduction. Donc, en quelque sorte, les relations interethniques viennent renforcer l'assignation de ces femmes à des tâches traditionnelles comme être nourrice, faire le ménage, etc., etc. Donc vous avez toute une littérature très importante sur la question en France, et qui a trouvé à s'inspirer des travaux anglo-saxons, notamment des cultural studies ou du black féminisme, où, en fait, dans les pays anglo-saxons, il y a une longue tradition de réflexion sur qu'est-ce que c'est que d'être à l'articulation, à l'intersection, certains utilisent ce concept, des relations interethniques et des rapports de genre, puisqu'il y a des processus qui sont un peu similaires de naturalisation, c'est-à-dire qu'on enferme les femmes dans une supposée nature féminine et on enferme aussi les groupes qui sont ethnicisés et surtout racisés dans une supposée nature, voire les deux. Donc une nourrice, elle est forcément, si c'est une femme africaine, elle va être forcément douce, accueillante, on a confiance parce que, enfin moi je l'ai entendu sur le terrain, ça va être une bonne mama avec toute la condescendance qu'il y a derrière aussi ces représentations. Donc voilà un peu comment s'est construit ce champ et se développe donc aujourd'hui beaucoup de travaux sur l'articulation des rapports sociaux et sur l'imbrication, en tout cas moi c'est le fil conducteur de mes travaux, c'est comment le sexisme et le racisme s'imbriquent et comment aussi les groupes qui sont doublement, triplement minorisés peuvent néanmoins trouver des ressources. Donc, j'ai voulu vous faire part d'une observation que j'ai réalisée dans un atelier communication, parce que je me suis dit que là, ça pourrait être très intéressant pour vous, même si je suis assez novice en la matière. Voilà, je vous ai rendu compte d'observations concrètes, donc d'un atelier qui se réalisait avec en moyenne entre 12, parfois plus de femmes qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, non francophones, donc de naissance, et qui étaient souvent installées en France depuis longtemps et ayant connu de nombreux échecs dans les ateliers d'alphabétisation plus classiques, et qui trouvaient refuge dans cet atelier communication pour apprendre le français dans un contexte précis. Et donc, y compris moi dans mes observations participantes, je jouais le médecin, parce que ne parlant pas l'arabe ni le wolof, j'apparaissais distanciée, donc on faisait des petites scénettes, des jeux de rôle sur voilà ce qui se passe quand tu téléphones au médecin, quand tu as rendez-vous chez le gynécologue, puisque l'enjeu est souvent autour de comment construire l'autonomie, mais je dirais surtout de l'intimité, en fait, hein, ce qu'elles recherchent beaucoup, les femmes, de leur point de vue, c'est une intimité surtout en ce qui concerne la santé et la santé du corps féminin, où elles ne souhaitent pas forcément être accompagnées de leur famille. Donc ça s'appuie sur des méthodes pédagogiques un peu qui m'ont semblé un peu originales par rapport à ce qu'il y avait en tout cas dans d'autres espaces du quartier, et qui s'appuyaient beaucoup sur les solidarités entre femmes. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que ça s'appuie sur des solidarités entre femmes en général. Donc souvent elles disent « nous les femmes », et là elles intègrent les travailleurs sociales du territoire, les animatrices, donc ça s'appuie sur « nous les femmes, le corps des femmes », etc., notre liberté en tant que femme, etc. Et à certains moments, nous, les femmes immigrées, ou nous, les femmes africaines, et c'est là que se pose la question qui est abordée, les questions sur le voile, sur l'excision, sur la polygamie, les mariages forcés. Et là, on voit que elles peuvent avoir recours à certains moments à cette catégorie femmes africaines ou femmes maghrébines qu'elles construisent. Et dans un entretien, une femme me dit, par exemple, c'est pas la société occidentale, les femmes occidentales qui vont décider à la place des familles immigrées, ce sont les femmes africaines elles-mêmes qui doivent prendre ça en main. Bon, qu'elles soient épaulées par nos consoeurs françaises, ok, c'est la solidarité féminine, mais il ne faut pas que ce soit les femmes françaises qui mettent ça en avant comme si c'était leur combat. Donc elles s'approprient dans ces espaces aussi, que ce soit les médiatrices, mais aussi les femmes qui participent à ces ateliers, elles s'approprient cet espace-là pour construire un « nous, les femmes immigrées » qu'elles opposent aux femmes de la majorité ethnique, comme « attention, votre regard sur le voile, votre regard sur la polygamie n'est pas exactement le même, et ne prenez pas ce combat comme si c'était le vôtre », donc en les mettant à distance. Et elles utilisent, à mon sens, des ruses. Elles rusent avec ce que Danielle Juteau, qui est une sociologue qui est canadienne, québécoise, nomme la frontière interne des frontières ethniques, c'est-à-dire, pour elle, il y a deux faces à la frontière, hein, c'est-à-dire la face externe dans la relation avec les autres groupes, donc ça c'est la frontière telle qu'elle se construit dans la relation avec les autres groupes constitués par... à travers cette frontière, et il y a aussi la frontière interne, c'est-à-dire comment nous on se conçoit, comment nous on pense notre culture. C'est-à-dire, est-ce que, pour vous donner un exemple concret, c'est est-ce que l'excision fait partie de notre culture ? Jusqu'à quel point ça fait partie de notre culture ? Est-ce que lutter contre l'excision est une affaire de Français qui luttent contre l'excision ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans notre pays d'origine, des réseaux qui luttent contre l'excision et avec lesquels on va se mettre en réseau pour ne pas utiliser l'argument « on est en France, il y a une loi qui interdit l'excision, c'est à ce titre-là qu'on va combattre l'excision », au risque de renforcer l'idée que nous, les Sénégalais ou nous, les Maliens, on fait de l'excision. Et là, c'est au contraire, en tant que Sénégalaise ou que Malienne, dire « nous, on est inscrits dans des réseaux », par exemple, elles sont en réseau avec des militantes maliennes et sénégalaises, pour, s'il y a une suspicion d'excision, elles téléphonent là-bas, et même si la famille va en vacances, il y aura des militantes sur place, maliennes et sénégalaises, qui vont prendre le relais, et ça ne va pas être perçu comme « c'est la France qui impose l'interdiction de l'excision, c'est à l'intérieur même du groupe ». Donc, c'est ainsi qu'elles rusent avec la frontière dite « interne », mais souvent c'est occulté par, c'est souvent méconnu en fait, et des sociologues et aussi des intervenants sociaux, parce que ça prend la forme d'actions qui reproduisent en partie la division traditionnelle des tâches, c'est-à-dire que ça va s'appuyer sur des repas, par exemple, on va faire la cuisine, on va danser, on va chanter, on va utiliser des pratiques qui sont traditionnellement dévolues aux femmes, ou des intérêts qui sont pensés comme traditionnellement dévolus aux femmes. Donc de l'extérieur, beaucoup de professionnels ou de sociologues, quand ils le regardent, ils se disent, voilà, ça n'est que de la pure reproduction de la tradition, ça n'est pas un moyen pour ces femmes d'augmenter leur marge de liberté, parce que de l'extérieur, on le vit comme une reproduction de la répartition genrée des tâches. Or, c'est méconnaître aussi les logiques de ces femmes et d'expérience de ces femmes par rapport notamment à l'autonomie financière. En fait, moi, je le détache pas, le partage des tâches ménagères, je le détache pas de l'autonomie financière, c'est-à-dire que c'est un argument qu'utilisent beaucoup les femmes que j'ai rencontrées pour dire, moi, je fais les tâches ménagères, etc. Et en plus de ça, je travaille, je fais tout. Donc, je l'ai vu chez les Sénégalaises ou chez les Maliennes ou chez les Marocaines que j'ai beaucoup interrogées. Et je suis en train de le voir aussi à Mayotte, parce que j'ai un nouveau terrain de recherche à Mayotte, où les femmes disent, nous, on fait tout. Et c'est à ce prix-là qu'on est autonome. Quand je gagne de l'argent, c'est en plus. Bon, on retrouve l'idée du bread de l'homme pourvoyeur de fonds pour la famille. Mais sauf que l'argent qu'elles gagnent avec leur salaire, elles considèrent de ce fait qu'elles en disposent comme elles le souhaitent pour elles et pour leur famille. Et c'est là que se construisent des espaces de liberté, acheter des livres pour leurs enfants, un ordinateur, se racheter une voiture pour aller travailler, etc., etc. Donc ce sont des supports d'émancipation que ces médiatrices considèrent, elles, comme à l'africaine. C'est en tout cas comme ça qu'elles le construisent, parce que ça repose à la fois sur une répartition très traditionnelle des tâches et en même temps la construction de ressources particulières, spécifiques, pour s'aménager des espaces de liberté qui tiennent compte de ces différentes assignations dans lesquelles elles sont, enfin, qui les contraignent, assignations liées à leur position dans les rapports de classe, les relations interethniques et les rapports de genre, bien sûr. Alors, je n'ai pas le temps de développer le lien que ça produit avec les travailleurs sociaux, mais vous pourrez aller le regarder, puisqu'elles mettent en scène aussi ça dans le cadre de repas conviviaux qui sont souvent vécus comme des choses juste de la convivialité, alors que pour moi, c'est éminemment politique, et je rejoins la question qui avait été posée tout à l'heure. Pour moi, ça a l'air d'être ludique, etc., mais derrière, c'est éminemment politique. Pour faire une petite conclusion sur... à mon sens, ce que peut apporter ici un éclairage en termes d'articulation des rapports sociaux, c'est que là, aucun rapport de pouvoir ne détermine les autres. C'est-à-dire, elles sont pas, c'est pas plus les rapports de genre que les relations interethniques qui vont pouvoir expliquer l'expérience de ces femmes et les ressources qu'elles peuvent trouver pour avoir plus de liberté. Cette approche... en termes d'articulation des rapports sociaux, permet d'éclairer et les migrations. On voit que les migrations ne sont pas des migrations uniquement d'hommes, pas des migrations uniquement de travail, puisque ce sont des femmes là qui sont à la lisière du travail, de la vie familiale, de la vie politique aussi, puisque ce sont des femmes qui s'engagent dans la vie publique. Donc ce n'est pas que des migrations d'hommes et des migrations autour du travail ou de l'insertion professionnelle. Ça éclaire aussi les relations interethniques, sur la frontière, parce que en tant que sociologue, peut-être Hélène aura le même commentaire, vous avez beaucoup parlé de culture. Pour moi, les groupes, ils sont constitués non pas seulement par des cultures, des contenus culturels, mais par des frontières, en fait. C'est la frontière qui fait le groupe, et pas l'inverse, à mon sens. Enfin, c'est en ça que j'utilise une approche plutôt interactionniste, en fait, des groupes, des relations interethniques. Donc ça nous aide à éclairer les migrations, les relations interethniques. Qu'est-ce que c'est aussi que les rapports de genre et l'hétérogénéité du groupe femme? Ce ne sont pas que des hommes qui travaillent, ce sont des mères, des femmes, et qui sont dans d'autres champs que le champ d'insertion professionnelle. Et on ne peut pas regarder leur expérience et les rapports de pouvoir qu'elles vivent, auxquels elles participent aussi, les rapports de pouvoir dans ce contexte-là, comme un simple modèle de cumul des handicaps. C'est-à-dire que souvent on dit, donc une femme issue d'une minorité ethnique, enfin, qui appartient à une minorité ethnique, dans un quartier populaire, en position précaire, parce qu'aussi elles sont souvent dans des emplois précaires, là on est dans une addition de carences, et je vous renvoie à ce qui a déjà été dit, comment regarder ces individus, pas uniquement sous l'angle de la maladie, de la carence, mais observer à la fois les rapports de domination, les rapports de pouvoir, mais aussi les ressources qui peuvent émerger. Donc on voit qu'elles trouvent à l'intersection de ces rapports de pouvoir, elle s'accommode et essaye de trouver s'accommode des différentes assignations hein, qui s'imbriquent à l'entrecroisement des rapports de genre et des relations interethniques pour essayer de construire des marges de liberté dans une solidarité qui est une solidarité qui est un peu qui se joue du flou en fait, hein, c'est-à-dire on passe d'un nous les femmes à nous les professionnels. Donc là, on peut être en solidarité avec les professionnels de l'intervention sociale, des hommes, y compris les hommes blancs, etc. Donc nous les femmes migrantes, nous les femmes africaines, nous les femmes marocaines, nous les femmes aussi musulmanes, nous les professionnels. Donc elles rusent aussi en se jouant du flou de leur, et de la complexité de leurs identifications pour obtenir un peu plus de marge de liberté et de prendre voix aussi dans l'espace public de leur quartier et même au-delà. Donc elles rusent avec ce que je vous ai dit être les frontières ethniques internes pour, tout en s'appropriant l'assignation aux tâches traditionnellement dévolues aux femmes, c'est ça qui peut paraître paradoxal quand on le regarde d'un point de vue des, on va dire, de l'expérience du féminisme français. Donc on s'approprie la répartition genrée traditionnelle des tâches, tout en essayant de construire à côté de ça des marges de liberté et d'autonomie sans confrontation directe. Et là se pose la question, une question que je n'ai pas résolue, peut-être vous allez m'éclairer, mais je pense qu'on ne va pas la résoudre aujourd'hui non plus, quelle est la limite? C'est-à-dire, elle ruse, elle contourne, elle s'accommode, elle ne se confronte pas directement, et donc quelle est la limite de cette autonomie alors qu'ils ne sont pas dans la confrontation. Voilà, ça, là, il y a tout un débat sur... il y a beaucoup de travaux anciens d'anthropologues, notamment sur les ruses des femmes polygames, par exemple, puisque j'étudie la polygamie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ruse? Ou est-ce que ça... Parce qu'on ne reproduit pas la domination en pensant ruser, et finalement, on ne déconstruit pas les catégories de genre.
Merci beaucoup.